Aujourd'hui dans le billet éco, je vais vous parler de la dette française.
Il faut que les Français sachent que leur pays est désormais un pays lourdement endetté.
C'est pas en faisant des trous dans la coque qu'on avance plus vite.
Nous ne pouvons pas dépasser un certain niveau d'endettement.
La France est en état de dépôt de bilan.
En situation de faillite sur le plan financier.
Championne de la dépense publique.
La dette n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans.
La dette, et surtout son remboursement, sont au cœur des débats médiatiques depuis de nombreuses années, et encore plus depuis la crise de 2008 ou la crise de la dette grecque. Aujourd'hui, une nouvelle crise, celle du coronavirus et les nombreuses dépenses publiques qu'elle a nécessitées, pour soutenir l'économie notamment, ont ramené la dette au centre des débats. En 2020, la dette française a ainsi dépassé la barre symbolique des 100% du PIB, s'élevant à plus de 115%, soit presque 20 points de plus qu'avant la crise du Covid. 115% du PIB, c'est plus de 2600 milliards d'euros. Et ça signifie que même si on ne faisait aucune dépense et qu'on gardait toutes les recettes sur une année entière, ça ne suffirait même pas à rembourser la dette. Sans compter que le PIB a lui-même chuté de près de 8% en 2020. Un peu déprimant, non ? En fait, pas tant que ça. On a longtemps pensé qu'une dette publique supérieure à 90% du PIB était néfaste pour l'économie du pays. Mais en fait, non. L'enjeu de la dette, ce n'est pas son montant, mais la confiance qu'on porte à l'État en question dans sa capacité à soutenir cette dette, c'est-à-dire à rembourser ses emprunts. C'est pourquoi l'Argentine a pu entrer dans une grave crise économique avec une dette publique de l'ordre de seulement 55% du PIB, alors que le Japon, avant Covid, avait une dette supérieure à 230% de son PIB, et se portait très bien. Les marchés financiers continuaient de lui faire confiance et d'acheter des parts de dette. Si l'Argentine s'est effondrée, c'est que plus personne ne lui faisait confiance dans sa capacité à rembourser. Les investisseurs n'acceptaient plus de lui prêter de l'argent à des taux normaux. La Grèce a connu le même cercle vicieux. Considérée comme incapable d'honorer sa dette, c'est seulement à des taux d'intérêt élevés qu'on a accepté de lui prêter de l'argent. De l'argent qui coûtait plus cher donc, ce qui contribuait à la déstabiliser davantage. Le point central de la question de la dette, c'est la hauteur des taux d'intérêt. C'est d'ailleurs pour ça que de nombreux économistes ne s'affolent pas de l'augmentation de la dette française au cours de cette crise du coronavirus. Car les taux d'intérêt sont extrêmement faibles aujourd'hui. Ils sont tellement faibles que cela coûte moins cher d'emprunter de l'argent aujourd'hui que de ne pas emprunter. Car compte tenu de l'inflation, le montant à rembourser demain sera inférieur au montant emprunté aujourd'hui. Ce n'est donc pas grave de s'endetter un peu plus. De toute façon, on ne peut pas vraiment faire autrement. Parce que ces taux d'intérêt sont faibles et rendent cet endettement économiquement intéressant. Aujourd'hui, bien que la part de la dette publique ait fortement augmenté par rapport au PIB, elle est donc soutenable, car les taux d'intérêt sont bas et les recettes publiques restent tout de même élevées. Mais se pose toujours la question du remboursement de cette dette, non ? Eh bien non. Les discours anti-dette sont basés sur une vision morale de l'endettement, qui trouve ses racines dans une histoire assez lointaine. Par exemple, la Bible recommande de ne pas s'endetter. Considérer la dette comme un fardeau qu'il faudrait rembourser, c'est ainsi oublier que c'est l'État qui s'endette, et non pas un particulier. Dans le raisonnement économique, l'État est considéré comme immortel et peut donc faire rouler sa dette, c'est-à-dire s'endetter pour rembourser ses dettes précédentes. Mais il ne peut pas pour autant s'endetter sans fin. L'État doit tout de même continuer de susciter la confiance des investisseurs et donc maîtriser la progression de ses déficits publics et de sa dette. Mais il y a plusieurs façons d'y parvenir. Et souvent, le discours volontariste pour réduire la dette n'est pas suivi d'une politique fiscale à la hauteur, notamment concernant l'imposition des plus riches, et se focalise sur la réduction de dépenses propres à l'État-providence. On pense notamment aux coupes budgétaires pour l'hôpital public. Finalement, comme le souligne Christian Chavagneux dans Alternatives économiques, c'est plutôt de l'endettement des entreprises françaises dont on pourrait se méfier, avec des taux d'endettement, qui sont très élevés et des emprunts servant souvent à la spéculation financière, par définition très volatile, alors que l'État, lui, s'endette pour financer intégralement l'investissement et les administrations publiques. Finalement, si l'on veut vraiment s'interroger sur la dette, ne prendre en considération que la dette souveraine est déjà un parti pris idéologique.
Pendant qu'il rêvait, un oiseau tout en haut de lui, sur une branche lui chantait. Paye tes dettes, paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas.
Merci beaucoup Joséphine pour cet éclairage passionnant sur la dette. On comprend tout de suite beaucoup mieux. Merci beaucoup. C'était la toute nouvelle voix économique du journal radiophonique Amplifié qu'on espère entendre lors des prochaines éditions. Tout de suite, on passe au sport avec Victor.